Marie. Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge, qui est, suivant le mot de Bernardin de Sienne, la flamma amoris separantis, et qui nous fait voir le don de crainte. Nous allons voir la deuxième parole. La deuxième parole de Marie, qui est dans ce même récit de l'Annonciation, après la deuxième intervention, réponse de l'ange. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous allons contempler cette flamme d'amour qui transforme, flamma amoris transformantis, et qui nous donnera l'occasion d'accueillir comme don de l'Esprit Saint le don de force. Il y a un lien entre ces deux paroles, comme Jésus le montrera d'ailleurs, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ici, c'est tout quitter pour que Dieu puisse agir librement et nous transformer. Il y a un très bel exemple de quelqu'un qui a été transformé par la grâce. C'est aussi Saint Paul. Je vais reprendre ce très beau texte qui a ce mouvement de l'amour qui purifie et l'amour qui transforme. C'est dans les Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 14. Je lis. Il vient de faire toutes ses richesses devant les contradicteurs, toutes ses richesses. Il est hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le huitième jour, enfin tous les titres où il pourrait se vanter. Et il ajoute, « Or toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, des richesses, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte au regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que je n'ai déjà obtenu tout cela ou que je sois devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi, mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Vous avez ce même mouvement. Tout perdre pour gagner le Christ et lui devenir conforme. Tout perdre, c'est flamma amor separantis. Pour devenir conforme, c'est pour se laisser transformer. Ici, en lisant, je me dis, mais il est important qu'on comprenne cette justice qui, non pas la justice de la loi, mais la justice qui vient par la foi. Vous avez ici le cœur de la vie chrétienne, le cœur du passage de l'Ancien au Nouveau Testament, le cœur de toute religion naturelle où on fait des... Enfin, l'Ancien Testament, ce n'est pas une religion naturelle, c'est une religion surnaturelle, mais... qui est déjà en préparation, qui est dans cette transformation pour aboutir à la plénitude en Jésus. Mais le cœur, être chrétien, comme je terminais tout à l'heure en vous dire, c'est pas je vais appliquer des bons petits préceptes pour devenir bon, etc. Non, c'est accueillir le don de Dieu, accueillir l'amour de Dieu et le laisser rayonner, le laisser couler la grâce. Or de cela, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas de vie chrétienne. Il y a ça. La vie chrétienne, c'est la vie du Christ, c'est la vie du Père, c'est l'amour du Père qui est mis dans notre cœur. et nous allons aimer avec l'amour du Père qui devient notre amour. C'est pas être gentil, encore une fois. Et ici, il le dit, j'ai été saisi et je tâche de le saisir. Bien. Et ici, vous avez donc le fondement dans ce tout perdre pour gagner le Christ. Vous voyez, dans le texte ici, c'est tout ce qu'on disait aussi avec le fruit de Marie qui, elle pose sa question, elle va recevoir, et alors elle peut s'élancer, aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Bien. Et c'est le fondement du « me voici ». Quand il y a le « me voici », le Christ va pouvoir agir en lui. Que d'obstacles, pour vous dire, reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, il a rencontré saint Paul. Depuis le chemin de Damas, il faut qu'il sorte de l'aveuglement. Et il devient aveugle, et il va être guéri, justement, puis ça représente, ça vient condenser tout l'aveuglement dans lequel il était. Et après, il n'aura plus le cœur partagé, mais il reconnaîtra le Seigneur et il ne reviendra jamais en arrière. Vous avez un très beau passage ici aussi dans le premier épître à Timothée, chapitre 1er, versets 12 à 16, où on voit justement cette transformation aussi à l'œuvre. « Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Moi qui auparavant blasphémateur était, persécuteur et violent, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, n'ayant pas la foi. Oui, elle a surabondé pour moi la grâce de notre Seigneur, ainsi que la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. » C'est vraiment cette transformation dans laquelle, à travers la miséricorde, à travers, c'est Dieu qui va venir changer notre cœur et nous faire, comme je vous disais, accomplir des choses qu'on ne pensait pas. Paul a laissé sa vie être embrasée, il a laissé sa vie être métamorphosée, transfigurée de fond en comble. Et la vie chrétienne, c'est apprendre à se laisser transfigurer. Vous vous souvenez la phrase fondamentale de saint Paul au début du chapitre 12, la vocation chrétienne de tout chrétien, le sacerdoce royal et commun des baptisés, c'est quoi? C'est offrez vos corps en sacrifice de bonne odeur. Je vais prendre dans le texte directement, par le Seigneur. C'est donc ce me voici, par excellence, offrir en un culte spirituel, en un culte agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, quittez, mais soyez transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable. Voilà tout ce travail du cœur du chrétien. Et Paul se laisse embraser et il devient un apôtre de feu qui a l'audace pour parler du Christ et d'affronter tous les dangers. Pourquoi? Parce que c'est cet amour de Dieu qui est au fond de son cœur et qui le presse. L'amour de Dieu me presse, il faut que je l'évangélise, c'est pour moi une nécessité. Il nous décrit à loisir, je vous parlais des difficultés, des obstacles de la vie, à loisir dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, 25-27. Dans les fatigues, dans la prison, sous les coups, dans les dangers de mort, des Juifs y ont reçu 5 fois les 39 coups. Trois fois j'ai été flagellé, une fois lapidé, trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit sur l'abîme. Voyage à pied, souvent. Danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes frères de race, danger des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur la mer, danger des faux frères. Fatigue et peine, veille souvent, faim et soif, jeûne souvent, froid et dénuement, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Mais rien n'arrête, il n'y a plus d'obstacle qui l'arrête, parce que ce ne sont pas les obstacles qui sont importants, c'est cet amour de Dieu qui veut se répandre, qui l'annonce, qui le donne. Hein, vous voyez, c'est pas, et il se représente, ah, il faut que je quitte, il faut que je passe ça, etc. Mais ce ne sont pas des choses choisies, c'est il affronte dans le temps présent la difficulté. Pour dire, c'est pas juste, ah ben c'est des trucs terribles, c'est vraiment une vie impossible, il est en train de dire une vie impossible, c'est pas ça. Hein, c'est la spiritualité aussi de Sainte Thérèse d'Avila, à qui on reprochait, elle était invitée chez une dame parce qu'elle était en convalescence, et une dame riche, et elle mangeait des cailles tous les jours, et on lui disait, bon, quand même, une religieuse mangeait des cailles, bon, pas la sainteté, ça, cette histoire-là. Hein, et elle répond, quand je mange des cailles, et quand je jeûne, je jeûne. Hein, je veux dire, mais vraiment, pleinement. Bon. Bon, enfin, il y a encore d'autres textes sur tout ce qu'il passe, mais c'est la flamme qui brûle en lui, comme en Marie. Et voyez, il y a à la base ce oui, cette reconnaissance, cette rencontre avec le Seigneur, ce me voici. C'est un petit mot. Ecce en latin ou inneni en hébreu, hein. Un petit mot tout simple, mais qui est une complète remise à disposition. Me voici, je suis tout à toi. Hein. C'est le fameux Totus tous de Saint Louis-Marguerite de Montfort qui a été repris par Jean-Paul II dans sa devise épiscopale. Hein. Fais de moi tout ce qu'il te plaira. Hein. C'est ce mouvement un peu double. Mais qui s'explicite, me voici, qu'il fiat, hein, ecce fiat, fiat, c'est qu'il me soit fait, de qu'il me soit fait, ou fait de moi, ou par exemple des consécrations, toutes les consécrations à Marie, à Jésus, hein, par exemple Charles de Foucault dans sa très belle prière, fais de moi tout ce qu'il te plaira, tu peux agir, transformer ma vie, me voici. C'est pas moi qui vais mettre la limite. C'est pas moi qui vais mettre la limite, mais c'est une vie de dialogue, d'ouverture à la grâce. Nous marchons avec la grâce. Je me souviens toujours du Père Jean, mon maître des novices, décédé l'année dernière, hein, qui, encourageant à dépasser les choses et à avancer, et toutes les peurs qu'on peut se représenter, ben non, je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est pour moi, etc. Et qui dit, mais compte avec la grâce. Mais souviens-toi, tu n'auras pas la grâce à midi moins 5 pour midi. Tu l'auras à midi. Parce qu'avec la grâce, c'est comme ça. Alors, c'est pas grave, j'irai pas. On se paralyse avec ces étés, il se représente les choses, je dois faire des trucs que je ne veux pas, que j'aime pas, etc. Non. Tu auras la grâce, mais tu l'auras à midi pour midi, pas à midi moins 5. Et si je ne dis pas ce ecce, ce me voici, Dieu ne peut rien car il ne fait rien sans nous. Il ne nous violentera jamais. Mais il vient mendier notre « me voici ». Et il sait attendre. Vous voyez ici, derrière, vous avez cette spiritualité mariale, c'est toute la spiritualité du concile, hein, la participation, la coopération. C'est vraiment cette révélation de Dieu, c'est l'être de Dieu qui agit avec nous comme un mendiant, hein, qui vient mendier notre oui. Alors si on lui dit oui, on va pouvoir faire des choses qui nous dépassent, des choses extraordinaires. C'est cette délicatesse de Dieu qui attend pour pouvoir entrer et transformer notre vie. Vous avez ce me voici, des me voici célèbres, dans l'Ancien Testament, vous avez la première, je pense au prophète Isaïe, la vocation du prophète Isaïe au chapitre 6, Vous savez, il voit apparaître la gloire de Dieu, un trône, et puis de la fumée, et puis des pans du manteau de Dieu, et puis les séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers », etc., comme nous on fait au début de la messe, hein, ou de la prière eucharistique. Et puis, tiens, la même chose, « Flamma amor separantis », qui vient purifier, il dit, devant ça, il dit, zut alors, mais moi je suis un pécheur, je fais partie d'un peuple de pécheurs. Alors l'ange vient prendre sur l'autel des parfums et un charbon ardent, et avec une pince, et puis il lui met sur les lèvres pour le purifier. Hein, et ensuite Dieu dit, qui enverrai-je, hein, qui enverrai-je pour annoncer au peuple la bonne nouvelle? Et le prophète qui répond, envoie-moi, me voici. Vous avez aussi, ça vous le connaissez par cœur avec les enfants, je suis sûr, parce que dans toutes les catéchèses, dans tous les machins, c'est le texte premier, c'est le texte de petit Samuel, hein, qui entend la parole du Seigneur, qui demande bien ce qui se passe, il ne comprend strictement rien. Là, il va voir le vieux prêtre Élie, et puis il dit, tu m'as appelé, et puis le prêtre, il dort à moitié, il ne comprend pas très bien, puis alors la troisième fois, il est un peu mieux réveillé, et il dit, non, va te recoucher, puis s'il te rappelle, tu diras, me voici Seigneur. Et alors le Seigneur va transformer, et vraiment Samuel va devenir, c'est l'un des plus grands prophètes, qui va vraiment pouvoir, alors que on dit dans l'Écriture, Dieu ne parlait plus, c'est pour ça que ça ne va pas reconnaître la parole du Seigneur qui appelle, et bien le Seigneur, il va devenir l'instrument de Dieu qui parle. Et voyez, si Marie, elle s'est donnée dans sa consécration virginale, c'est pour être redonné au monde d'une manière nouvelle. Ne jamais avoir peur de ce que nous de ces séparations, de ce que nous livrons au Seigneur. Dieu va lui redonner. Dieu ne veut pas que nous ayons une vie rabougrie. C'est une vie en plénitude, une mesure pleine, passée, secouée, débordante. Mais il y a ce passage, il y a cette entrée dans l'aventure. Et donc Marie consent à être celle par qui Dieu vient dans le monde. Comme notre vocation est d'être, de consentir à être ceux par qui Dieu est présent et vient dans le monde. Je vous rappelle que la charité fraternelle, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas être gentil avec le prochain, mais c'est simplement être la présence de Jésus, le regard de Jésus, les mains de Jésus. Car si vous n'aimez pas votre prochain, si vous n'êtes pas une source de bienveillance, de tendresse compatissante et de vérité pour le prochain, comment saura-t-il que Dieu l'aime? Montre-moi ton amour pour le prochain, je te montrerai ton amour pour Dieu. Et sinon, ne nous étonnons pas que Dieu ne soit pas présent dans le monde, puisqu'il nous a confié cette mission d'être des Christ, d'être des chrétiens, d'être des sacrements, des temples de sa présence, des sacrements de sa présence pour tous ceux que nous côtoyons. Et l'inouï va s'accomplir, ce fiat va la rendre mère dans sa virginité. Devenir mère, je pense, j'en ai pas l'expérience, mais je pense que ça doit être l'expérience de transformation la plus étonnante dans la vie humaine, dans la vie d'une femme. Hein. Alors, vierge mère, c'est encore plus étonnant. Et ce « me voici », vous voyez, c'est un mot fondamental qui est au cœur, qui est à l'entrée, et puis qui est à l'aboutissement aussi de toutes nos adorations, de tous nos temps de prière, de rencontre avec le Seigneur. Seigneur, me voici. Hein, me voici. Je me mets à ta disposition. Envoie-moi, transforme-moi. Et Dieu nous purifie toujours, c'est pour un plus grand, ou un oui plus grand. Et faisons attention à nos oui qui ne sont pas complets, qui sont partiels, limités, conditionnels. c'est des oui, oui mais, des oui mais pas tout de suite. Hein, Jésus répond, dit mais, laisse les morts enterrer les morts. C'est maintenant, dans la prière de l'Église, maintenant est le temps du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. C'est cet aujourd'hui de toujours de Dieu. C'est oui, mais pas complètement, oui, mais à condition que, oui, mais jusqu'à tel point. Non, c'est le oui. Et le oui dans le mariage, il est à cette image. Il s'inscrit dans le oui de Jésus entrant dans le monde, du Verbe de Dieu entrant dans le monde. Me voici pour faire ta volonté. Et en cet écho avec ce oui de Marie, dans cette harmonie avec le oui de Marie, me voici. Nous, on ouvre la maison, d'accord, quand on prie, mais on prend toujours soin de bien fermer telle pièce, telle autre. Hein, j'étais très étonné, je me rappelle un jour, j'étais dans un quartier on habitait dans un quartier à Lima, un quartier où la police, il y avait des postes de police à l'entrée et qui arrêtaient les gens qui n'étaient pas du lieu. Et un étranger comme moi, comme ça, pour dire, il fallait présenter ses papiers d'identité. Non, non, rentrez pas là, c'est pas pour vous. Hein? Ou une autre fois, j'avais demandé, un mois avant, j'avais demandé à un agent de police aussi où était ce quartier, etc. Et il m'a dit, il avait refusé de me l'indiquer, il dit, c'est pas pour vous. Évidemment, la renommée, c'est un quartier peureux parce qu'il y a un hôpital dans ce quartier, et même les gens dans le quartier, même les gens de très basse condition qui viennent se font piquer, se font dérober ce qu'ils ont et même ce qu'ils n'ont pas. Hein. C'est comme on dirait à Toulouse, un quartier peureux. Vous savez, où il y a une pharmacie, mais les quelques médicaments qu'il y a derrière, c'est derrière des grilles et tout ça, tout le monde est capotré. Parce qu'il faut dire, c'est effectivement, la méthode, c'est tout à fait simple. Vous avez quatre types qui se mettent autour de vous et qui vous dépouillent complètement. Hein. Donc, effectivement. Pourquoi je parle de ça? Oui, alors oui, c'est ça. Et alors, finalement, on a habité dans ce quartier. Et un jour, on a été visiter un monsieur qui habitait la périphérie du bidonville, quoi, enfin, du quartier, etc. Et alors, il nous invite chez lui. Et il nous fait visiter la maison. Et c'était un type qui faisait beaucoup de recel. Donc l'acte qui va avant le recel aussi. Hein. Donc il avait une pièce spécialement dans sa... Enfin, c'est avec deux pièces dans sa... Il y avait la pièce où il vivait, puis il y avait une pièce derrière, où il y avait tous les trucs derrière. Et il nous fait visiter la maison, il fait visiter toute la maison, hein, et puis il ouvre le rideau, il nous montre toutes ces choses, il les referme, il dit, bon, puis on n'en parle plus. Hein. Mais et ça me rappelle aussi ce que disait une maîtresse des novices, qui a été maîtresse novice très longtemps, carmélite. Hein, disait, bah oui, la vie religieuse, c'est ça, on arrive, on donne tout, hein, et puis, on met les valises au grenier, mais petit à petit, on retourne dans la vie religieuse. Je pense que dans la vie matrimoniale, c'est la même chose. Hein, on retourne petit à petit rechercher une affaire, puis une autre, une autre. Bref. Hein. Et justement, Marie, elle se donne entièrement. Hein. Ne fermons pas telle ou telle pièce à double tour. Justement parce qu'on ferme celle qu'on aurait en général le plus besoin d'ouvrir au Seigneur pour être visité par la grâce, pour être purifié. Qui aurait le plus besoin de la visite de Dieu. Mais nous sommes très doués pour dissimuler ce qu'il faudrait ouvrir, exposer. Tout le travail de l'adoration, tout le travail du chemin spirituel aussi, ça va être d'apprendre d'ouvrir plus profondément notre cœur, pour l'élargir. Demandons la grâce d'être lucide sur tous les « me voici » que nous n'arrivons pas à dire, sur les conditions que nous mettons souvent, sans s'en rendre compte, hein, sur les lieux que nous soustrayons à la grâce. Car on sent bien un peu que si Dieu pénètre, nous aurons à changer. Nous aurons à notre vie transformée. Et ça nous fait peur. Et des fois, c'est tellement un truc qu'on a des peurs complètement imaginatives. Je me souviens, cette personne très généreuse qui avait vocation d'être médecin et qui ne voulait pas se convertir parce qu'il pensait que si il se convertissait, Dieu lui demanderait d'aller soigner les pauvres en Afrique. Elle n'avait pas du tout envie d'aller en Afrique. C'était complètement dans l'imagination. Mais du coup, non, je ne me convertis pas, je ne deviens pas chrétien parce que. Voilà. Bon. Marie, elle n'a pas peur de l'inconditionnel. Je vous rappelle que l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est la grande chose dans l'alliance d'Abraham, donc, que j'ai évoquée trop rapidement tout à l'heure, le sacrifice où Dieu seul passe à travers le sacrifice exposé entre les morceaux de bêtes qui sont coupées en deux, c'est Dieu seul qui passe. Pour l'honneur de mon nom, je t'ai aimé, je t'ai choisi. J'ai pris les cieux, que tu sois fidèle ou non. Si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Elle n'a pas peur de l'inconditionnel, de la confiance totale, en réponse à cet amour de Dieu qui est inconditionnel. Il ne nous a pas, comme disent les mystiques du 17e, etc. Il ne nous a pas aimés pour rire. Il s'est donné entièrement, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et Marie sait et elle sent que la transformation, que ces transformations, elles sont vivifiantes, béatifiantes. Alors voilà, me voici, la Vierge devient mère. Et ça, c'est une chose, parce que Dieu donne vie à tout ce qu'il touche. Il donne une vie jaillissante, surabondante. Alors c'est vrai, des fois, on a l'impression, parce que comme la grâce, elle n'est pas donnée à midi moins 5, on dit, non, j'ai tout perdu, je ne sais pas, etc. Mais une fois qu'on nous donne complètement, alors quelque chose va pouvoir naître. L'impossible devient possible. La Vierge devient mère. Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, on ne l'appelait plus Élisabeth, on l'appelait la stérile. Eh bien, la voilà, qui est enceinte, elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et là encore, ça nous ramène à Abraham. Et c'était la phrase qui était dite pour l'annonciation à Abraham au chapitre 18 de la Genèse. Car rien n'est impossible à Dieu. Et ici, c'est repris dans cet autre. Et c'est ça, c'est là qu'est le don de force. Il faut de l'audace. Je vous parlais tout à l'heure, si le don de crainte, c'est accepter la pauvreté, cette pauvreté, notre pauvreté, elle est aussi animée par le don de force. Vous voyez, c'est pas une pauvreté rabougrie, Dieu n'aime pas la misère pour la misère. C'est simplement que si je suis réduit à l'essentiel, je vais aller chercher des racines, des forces pour développer des moyens de survivre. Des moyens de vivre, et pas seulement quelquefois de survivre. Au début, ça peut être de la survie. Et vous avez ici, c'est toute l'intelligence de la parabole des talents. La parabole des talents, Dieu nous confie des talents. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais les faire fructifier? Est-ce que je vais avoir l'audace, au moins, de les mettre à la banque? Évidemment, quand ça tombe à 0,75%, c'est pas très... très bon, mais au moins, au moins pour ne pas perdre le prix de l'inflation. Bon, mais où est-ce que je suis dans une attitude de peur? Ben non, je savais que tu es un maître exigeant, etc. Là, j'ai été le mettre dans le bas de laine, je l'ai enterré dans la terre, etc. Et puis, serviteur mauvais. Alors que les autres, ils ont mis, suivant leurs ressources, ils ont mis en œuvre pour se laisser vivifier, trouver les moyens. Et ce don de force... c'est aussi un autre verset que j'aime beaucoup dans la Bible, qui est un peu mystérieux. C'est dans le livre de Coëlette, chapitre 11, verset 1. Lance ton pain sur l'eau, il te reviendra. Alors, je ne pense pas que c'est un verset qui soit pour nourrir les canards. quoique il va engraisser si je lance mon pain sur l'eau, mais c'est plutôt un verset disant une cité maritime, investis, fais du commerce, envoie tes bateaux, etc. Et ça te reviendra. Mais ne mets pas dans le bas de laine, ne reste pas enfermé. C'est vraiment cette force. Et là, ça demande cette audace, ça demande cette force, cette force que nous donne toujours cet amour présent du Seigneur, cet amour qui nous a transformés, que nous avons reçu. Hein. Et c'est pas pour rien ce don de force que l'ange... Comment il s'appelle l'ange de l'Annonciation ? Gabriel. Et pourquoi il s'appelle Gabriel ? Bon, parce que c'est son nom, vous allez me dire. Mais bon. Quelle est la signification de Gabriel ? Force de Dieu. C'est étonnant. Hein ? C'est étonnant. Moi, dans ma petite naïveté, je trouvais que ce serait plutôt Michel qui aurait dû être... qui est comme Dieu, parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu et on ne pouvait pas l'inventer nous. Hein ? Oh non, c'est Gabriel. C'est la force de Dieu qui va se déployer dans cette faiblesse, dans cette pauvreté. Et c'est des thèmes locaux. On revient toujours avec ça. Dans l'Évangile. Et donc Marie, elle est visitée par la force de Dieu. Elle n'a pas de projet d'avance. Attention à tous les projets qu'on met à l'avance. Il faut faire des projets pour vivre. C'est les projets qui nous font vivre. Mais les projets, ce n'est pas notre Dieu. Hein? Les projets, ils s'adaptent. Ce n'est pas la condition pour aimer les projets. C'est la vie qui se déploie, mais on voit bien combien les projets, il faut les réadapter, les refaire pour accueillir la vie. Elle n'a pas peur de ce que Dieu va faire. Mais si on ne croit pas à cette force de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Si on ne croit pas que Dieu peut nous transformer en profondeur dans notre vie, il ne se passera rien. Vraiment cette ouverture. Qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez, c'est, alors, reprenez cette phrase. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est au passif. Hein, c'est vraiment d'accueillir ce don de force. Et la vie chrétienne et notre conversion, ça ne peut pas être une conversion que de façade, que de l'apparaître. Je le fais parce que la communauté le fait, me demande, et puis je suis réglo, je suis politiquement correct. Hein, je le fais et ça va assurer mon salut, c'est l'attitude pharisienne. Hein, je suis bon, voilà, le bon croyant, il doit être comme ça, etc. Non. Hein, mais c'est de cette rencontre. Dieu peut me transformer en profondeur. C'est intéressant de voir. J'avais reparé en préparant ça, j'avais repris les différentes paroles de consécration. De consécration à Marie, de consécration de saint, ou pas comme Marthe Robin, etc. Et c'est très intéressant, Marthe Robin qui est malade dès l'âge de 16 ans, hein, qui va vers la paralysie, etc. Elle lutte et c'est difficile. Hein. Et vers 22-23 ans, parce que sa vie est brisée, quoi, sa vie est nulle, elle ne peut pas. Bon. Et 22-23 ans, après une lutte intérieure très forte, elle dit vraiment oui à ce qu'elle est en train de vivre. Et du coup, Dieu va faire avec sa vie quelque chose de inédit, mais elle va accueillir un nombre de gens que bien des prêtres ne pallieraient de pouvoir accueillir autant de temps et de faire du bien par des petits conseils à travers sa simplicité, à travers sa force, à travers aussi le mystère de ce qu'elle vit profondément, bien sûr, mais Dieu va l'emmener dans une union avec elle et dans une fécondité, hein, alors qu'elle est bouffée par la maladie, frappée dans sa jeunesse, c'est rien. Mais le oui qui ouvre tout. Hein, et on va retrouver ça partout dans les vies des saints. Et la Bible regorge de textes qui, à ce sens, quand nous présentons les lieux de notre vie qui ne sont pas féconds, mais Dieu est capable de faire pousser des arbres dans le désert. Vous avez tous les textes hyper célèbres ici, dans Isaïe 35 par exemple, qu'on reprend pendant le temps de l'Avent. Qu'il se réjouisse le désert et la terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs des champs, qu'elle saute et danse et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel sur la plaine de Sharon, et on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. La pauvreté ne va pas nous limiter, elle est juste une condition pour que nous puissions nous ouvrir. Nous avons encore Isaïe 41, 18-20. Je ferai jaillir des fleuves sur les coteaux pelés et des sources au milieu des ravines. Je transformerai le désert en étang et la terre aride en fontaine. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. J'introduirai dans la steppe le cyprès, l'orme et le buis ensemble, afin que les gens voient et sachent qu'ils s'appliquent et saisissent ensemble que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Bon, puis il y en a des tas d'autres. Et c'est ce sens aussi, vous savez, ce très beau passage d'Ézéchiel chapitre 37, hein, où il voit une petite source sortir du côté droit du temple, hein, et qui devient une rivière, et puis qui devient un grand fleuve, hein, et qui passe à travers le désert, ça suit le Cédron. Hein, qui passe devant le temple de Jérusalem et qui va jusque dans la mer morte et sur ses rives poussent des arbres qui produisent des feuilles qui guérissent et des fruits qui donnent 12 fois par an, hein, et qui va jusque dans la mer morte et qui va juste revivifier la mer morte, hein, pour lui donner. Et vous voyez, c'est tous les textes ici qui sont inscrits dans la mémoire d'Israël, ces changements, mais c'est vraiment la politique de Dieu. Quand il vient visiter nos terres arides, il va les rendre féconds. On retrouvera d'ailleurs dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, une allusion à ce fleuve qui traverse le désert et qui donne des feuilles qui guérissent et qui donne du fruit 12 fois par an. Et vous voyez, ce fleuve de vie, eh bien, c'est l'Esprit Saint, le donateur, qu'on appelle le donateur de vie. Vous avez dans la très belle séquence de Pentecôte, hein, il vivifie ce qui est mort, il réchauffe ce qui est froid, il baigne ce qui est aride, il rend droit ce qui est tordu, etc. L'Esprit Saint, fleuve de vie, hein, et nous sommes faits pour être de grands vivants. Nous ne sommes pas faits pour être des cadavres ambulants ou des petits vivants, mais pour porter du fruit en abondance. Mais c'est pas à penser d'une manière extérieure, c'est pas moi je vais faire des grandes choses, vous allez voir. C'est tout concentré dans cette attitude mariale. Me voici, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous disais, c'est une formule passive, mais cette formule passive en hébreu, elle est aussi ce qu'on appelle le passif divin, parce que quand on ne dit pas le nom de Dieu, donc qu'il me soit fait, ça veut dire que Dieu fasse. Et ce n'est pas que Dieu fasse, ben Dieu veut le faire, et puis moi je suis. Non. Je m'ouvre, je coopère, j'ouvre. Et voici la vie de Marie, hein, qui va rentrer dans cette fécondité. Alors demandons simplement d'accueillir l'Esprit Saint, d'accueillir le don de crainte, dont je parlais, d'accueillir le don de Dieu, d'avoir cette audace. Ce qui caractérise tous les saints, c'est cette audace dans ce me voici. Et ne mettons pas de limite à l'amour du Seigneur. Alors remplissons pas à travers nos imaginations, nos projections, les idoles que nous avons à l'intérieur, mais accueillons le don de Dieu et il portera du fruit.